Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revol, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Nous recevons aujourd'hui Théo et Anastasia. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc bonjour Anastasia et Théo, encore une fois merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter et ensuite on va pouvoir commencer sur le sujet du podcast de jour. Je t'en prie Anastasia.
Bonjour Eva, merci. Donc je m'appelle Anastasia, je suis consultante en IA chez Devoteam Revolve et aujourd'hui on accueille Théo de Data for Good pour notre podcast. Théo, je te laisse te présenter.
Bonjour à toutes les deux et enchanté, merci de nous avoir invités. Je m'appelle Théo Alves da Costa, je suis coprésident de l'association Data for Good depuis 4 ans et bénévole depuis sa création, depuis 9 ans. Et je suis ravi de pouvoir vous raconter un peu ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et quel est notre avis sur le rapport à la technologie.
Très belle introduction. Je suis très contente qu'on ait ce podcast aujourd'hui parce que c'est des sujets, comme vous allez le voir, qui sont vraiment ancrés dans l'actualité. C'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Donc effectivement, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de ton association, la genèse, le contexte et quel est ton rôle du coup chez Data for Good?
Bien sûr. Donc Data for Good, c'est une asso loi 1901, donc c'est-à-dire une association à but non lucratif qui rassemble aujourd'hui une communauté de quasiment 6000 bénévoles qui sont différents profils de la data, de la tech, qui veulent s'engager pour le bien commun et pour l'intérêt général. Et donc mettre leurs compétences au service des grandes causes sociales et environnementales. Donc ça existe depuis 9 ans, en gros autour de 2014-2015, l'association a été créée pour pouvoir justement commencer à faire ça. Comment on l'a fait depuis le début? C'est en faisant des mises en relation sur des projets portés par des ONG, portés par des associations qui avaient besoin de ces compétences-là. Parce que le constat qu'on s'est mis dès le début à la création, c'était qu'il y a plein de besoins en fait, dans l'intérêt général. Il y a un manque d'outillage, il y a un manque de data, il y a un manque de tech qui permettrait à toutes ces organisations de démultiplier leur impact. Et de l'autre côté, on a une citation qu'on aime beaucoup d'un des premier manager data chez Facebook qui disait « The best minds of my generation spend their time creating softwares to click on ads, and that sucks. » Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette question du sens dans la technologie où toutes ces compétences-là, on les passe très souvent à faire des choses qui, en fait, peut-être ne nous rendent pas spécialement heureux parce qu'on se demande pourquoi on les fait, alors qu'elles pourraient, toutes ces compétences peuvent être mises au sens et pour des causes sociales et environnementales. Et donc c'est né de ce double constat-là, qu'il y avait des besoins et qu'il y avait aussi une demande très forte de retrouver le sens face à cette technologie-là. Et donc on a commencé par mettre en relation des bénévoles avec des associations. En faisant ça deux fois par an avec des batchs d'accélération, on appelle ça des saisons. Donc là on vient de finir la saison 12, donc c'est-à-dire qu'on a fait parfois plusieurs fois par an, trouver 4, 5, 6, une dizaine de projets portés par des ONG, portés par des citoyens, sur qui avaient besoin de compétences, on les met en relation avec des bénévoles, et ça permet de faire émerger des idées, de créer des choses ensemble.
Ok, et du coup, toi, ton rôle là-dedans, donc au début, t'es arrivé en tant que bénévole, comment t'as connu Data for Good, et comment ça s'est passé, du coup, le début de ton investissement dans l'asso?
J'étais bénévole à la saison 1 et 2, notamment,
dès le début,
parce que, pareil, je commençais ma carrière dans la data, dans l'IA, et je voyais tout de suite que j'avais envie à la fois de rencontrer du monde, de trouver aussi de l'énergie avec des gens qui s'intéressent à ces sujets-là et de mettre tout de suite ces compétences en pratique sur des causes qui m'importaient. Donc moi, j'avais travaillé sur l'éducation, sur la santé pendant ces saisons-là. Et puis après, je suis revenu un petit peu plus tard en re-rencontrant Lou, qui est donc coprésidente de l'association avec moi, qui va plus nous rejoindre aujourd'hui et qui en fait, m'a demandé si jamais je pouvais m'engager un peu plus, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et depuis, donc je m'occupe de l'association un peu plus qu'avant, dans ses différentes composantes d'organisation, pour rentrer dans le détail, et aussi sur la structuration de projets, trouver des ONG à accompagner, trouver des projets à faire, et aussi porter des projets directement entre nous.
Justement, ouais, si tu peux étayer sur comment ça se passe un peu le fonctionnement de l'association.
Donc on a pas mal d'axes de travail et ça a pas mal évolué au fur et à mesure des années aussi en se rendant compte de qu'est-ce qui ferait qu'on aurait le plus d'impact possible. Et en gros, pour résumer, on a quatre leviers. Le premier, c'est qu'on essaye de créer des projets pour changer les choses. Donc ça peut être, on va aller chercher des associations, des ONG, parce qu'on sait qu'elles ont un besoin. On pense qu'on peut les aider, on sait qu'elles ont déjà un impact sur le terrain. Et on se dit, en fait, si jamais elles avaient ça entre leurs mains, ça pourrait carrément changer les choses. Donc on va aller chercher, et on se dit, on va créer un projet, on va créer un produit ensemble, et on va participer à ça avec et le co-construire. Typiquement, on a créé avec l'ONG Kota Climat un baromètre sur le traitement écologique dans les médias pour se dire que, en fait, pour pouvoir argumenter dans leur plaidoyer pour qu'il y ait beaucoup plus d'écologie dans les médias, il leur fallait des datas pour prouver que on n'en parlait pas assez, qu'il faudrait en parler plus, et donc il faudrait idéalement récupérer ces chiffres pour pouvoir le faire. Ou on est allé chercher par exemple l'ONG Bloom qui travaille sur la défense des océans pour leur dire, en fait, si jamais vous pouviez mieux suivre les bateaux de pêche et la fraude industrielle des bateaux de pêche, eh ben, on pourrait avoir tous ces outils, tous ces algorithmes pour vous faire en même temps, vous, de faire des plaidoyers européens, des assignations en justice et d'essayer de faire un peu changer les choses. Donc ça, c'est un peu un premier axe. C'est nous qui se disons, on va aller chercher des projets ou alors on va même parfois en monter nous-mêmes. Par exemple, on a créé un énorme projet sur les bombes carbone qui a fait beaucoup de bruit dans le monde entier, sur lequel on s'est dit qu'il fallait à nouveau créer une plateforme, des outils et de la data pour mettre en valeur l'exploitation fossile et que ça soit dans le débat public. Et donc ça a été repris par beaucoup de journalistes. On a travaillé avec les journalistes derrière les Panama Papers, derrière un grand consortium de journalistes d'investigation. C'était assez génial. Et donc ça, c'est notre premier axe. Notre deuxième axe qui est très relié, c'est comment on peut accompagner les associations et les ONG à monter en maturité sur ces sujets-là. Et ça, on le fait de plus en plus pour... parce qu'on se rend compte qu'en fait, si y a parfois des besoins qui ne sont pas genre le projet un peu shiny, mais juste, en fait, il faut se structurer, il faut commencer justement à collecter de la donnée. Et ça, c'est un truc qui n'est pas du tout répandu dans les associations, parce que en général, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des compétences, il faut recruter. Et du coup, on les aide aussi à définir une forme de stratégie pour pouvoir le faire mieux. Et ça fait émerger des projets et ça permet de solidifier aussi les bases d'une association. Donc ça, on le fait de plus en plus. On a un troisième axe qu'on travaille de plus en plus qui est sur les études et la recherche. Et donc ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que maintenant, on a 6000 citoyens. Parce que quand on rentre dans l'association, c'est en tant que citoyen. On n'est pas représentant d'une organisation. Et donc on s'engage en tant que citoyen pour faire quelque chose. Et du coup, face à l'intelligence artificielle notamment, on se rend compte que nous toutes et tous, on a envie d'avoir sa voix en tant que citoyen sur le changement du monde et sur la transformation de la société. Et donc on a eu beaucoup de demandes au fur et à mesure des années de se dire, mais nous on a envie de dire quelque chose en tant que membre de l'association. Et donc on se permet maintenant de se dire, on va faire des études, on va faire de la recherche, ce qui va permettre à tous les membres de la communauté de se porter représentation de ce qu'aimeraient dire les citoyens sur le sujet de l'IA par exemple. Et donc par exemple on a fait, il y a déjà en 2018, on avait créé le serment d'Hippocrate du data scientist, qui était déjà un premier... levier pour dire, mais en fait, nous, c'est pas un projet, on a juste envie de dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont la technologie évolue et on veut genre fixer des limites, on veut fixer un cadre. Cette année, on a écrit le livre blanc sur l'IA générative, les grands défis de l'IA générative, qui au final est une des meilleures ressources aujourd'hui en français pour faire comprendre tous les défis, les challenges et les risques d'impact sociaux et environnementaux de ces technologies-là. Où on va fabriquer des outils pour mesurer l'impact environnemental de l'IA, qui sont aujourd'hui utilisés dans le monde entier. Donc on a vraiment cet aspect-là de se dire, on doit aussi effectivement réfléchir sur tout ce qui est l'impact de ces technologies-là, et ça se fait écho à tous ces citoyens qui ont envie de dire quelque chose sur le sujet. Et ça, on va encore plus accélérer d'ailleurs dans les années à venir. Et après, il me manquait, je crois, mon quatrième axe qu'on cherche de plus en plus à faire, et parce qu'on se rend compte que pour avoir un vrai impact sur le monde, c'est pas un sujet de geek, qui est quelque chose qu'on a vachement évolué dans les années, où en fait au début on faisait des projets, on les mettait en open source sur GitHub et on se disait c'est génial, maintenant les gens vont s'en saisir et changer le monde avec. Et en fait c'est pas comme ça que le monde fonctionne, c'est pas comme ça qu'on fait du changement. En fait il faut réfléchir, aller beaucoup plus loin sur comment on déploie le changement dans les organisations, et en fait la technologie elle est en arrière-plan et elle s'efface. Et du coup on a plusieurs axes autour de ça, c'est un peu notre quatrième axe autour du plaidoyer et du changement. En fait, sur lesquels en fait, on veut être beaucoup plus acteur que ce qu'on a fait auparavant, et on l'est déjà de plus en plus. Et pour dire, en fait, c'est pas juste faisons une ressource, faisons un livre blanc, mais comment on fait pour que ce livre blanc change les choses. Donc est-ce que c'est parce qu'on va faire des formations, parce qu'on va faire des demandes de régulation, est-ce qu'on va faire des propositions de loi, dans quelle main on va mettre ça, ces outils-là, qui va être sur le terrain pour pouvoir vraiment le changer, comment on s'assure que tout ce truc-là qu'on fait, bah, ça soit pas juste un truc de geek dans son garage, quoi.
Du coup, vous êtes quand même super structuré. Est-ce que vous rencontrez malgré tout des défis, notamment par exemple au fait que vous êtes dépendant entre guillemets des bénévoles, des ressources, des associations? Est-ce que justement vous avez des challenges à ce niveau-là?
Énormément. Tous les jours, on se pose ces questions-là. On est tous et tous bénévoles dans l'association, moi y compris. Donc ça vient avec son lot de défis, parce qu'effectivement, un bénévole, c'est... peut-être les personnes les plus merveilleuses avec qui on a la chance de travailler dans une vie, parce que c'est une énergie pure, et c'est aussi ça qui est intéressant quand on s'engage sur ces causes-là, c'est qu'on est motivé juste par l'énergie des gens qui en fait s'engagent pour eux, ils le font pour eux, et ça c'est incroyable. Et en contrepartie, mais en fait, ça, on a une vie, on a effectivement des impératifs, on peut avoir des gens qui sont très très engagés, qui vont y dédier genre tout leur temps pendant un moment, et puis après au final ils peuvent plus pour plein de raisons, et c'est tout à fait ok. Et donc c'est toute une forme d'organisation qui doit se mettre en place. On a plusieurs chances dans l'association, c'est que, un, on a beaucoup de monde, donc on peut quand même compter sur du volume, en quelque sorte, pour pouvoir réussir à faire quelque chose de stable. Ensuite, on a beaucoup en fait, de gens qui ont de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit par rapport à d'autres ONG. En fait, on a, comme les gens ils viennent en tant que citoyens, en travaillant beaucoup dans le privé, mais en fait, il y a plein de méthodes, de méthodologies, les gens savent comment travailler ensemble, parce qu'ils ont déjà cette expérience-là. Et ensuite, je pense un autre point qui est hyper important, c'est que ça vient quand même de la culture du logiciel et du développement. Et donc les gens, ils savent aussi travailler en asynchrone, ils savent ne pas forcément faire des réunions, et puis en fait juste discuter sur un chat en ligne, et puis parler par commit GitHub, etc. Et ça, ça marche assez bien. Donc au final, on se rend compte qu'on a toujours un peu l'impression qu'au début, même nous, on se disait, mais en fait, c'est un peu le bordel, comment on fait pour s'en sortir? Et au final, c'est assez structuré et ça marche assez bien. Donc, je pense qu'après, on a eu beaucoup d'échecs aussi, pour plein de raisons différentes. On a fait 120 projets qu'on a co-construits avec des assos depuis un petit moment. Et en fait, on en a plein qui n'ont pas marché pour plein de raisons. Et on a aussi eu l'occasion d'en fait énormément apprendre à partir de ça. Et donc maintenant, c'est franchement plutôt bien faire. On arrive à faire en sorte que quasiment tous les projets ont un impact. On a parfois des choses qui se passent où on ne peut pas contrôler, mais en tout cas, c'est à la fois un défi, on s'en sort plutôt bien pour l'instant.
Justement, je vais rebondir sur cette notion d'impact, qui est donc, de ce que je comprends, vraiment le cœur de Data for Good. Comment justement cette saison donc, de cette année, ça a été pris en compte, cette notion d'impact? Et aussi, comment est-ce que vous avez des outils, entre guillemets, pour quantifier, si c'est quantifiable, cette notion d'impact qui est, somme toute, assez subjective aussi? Et cette notion, donc tu parlais d'échec. Parce qu'au final, est-ce que quand tu dis le terme échec, est-ce que ça se parle en argent, en réalisation, en temps, et comme au même titre quand un projet fonctionne et réussit, quoi? Est-ce que vous avez du coup...
L'impact, effectivement, c'est toujours un peu dur de se dire comment ça se mesure, on ne sait pas trop. Et donc, c'est vraiment du cas par cas. Ce qu'on a essayé de faire, trouver des templates, des frameworks, des méthodologies, mais en fait, c'est très dur d'avoir quelque chose de générique. Donc au final, on est revenu dans l'évaluation de tous nos projets au cas par cas. Donc on a des critères sur lesquels... Enfin, il y a plusieurs choses. C'est déjà, est-ce que le projet, il a une chance de voir le jour? Et ça, parce que s'il ne voit pas le jour, en fait, c'est pas possible qu'il ait de l'impact. Est-ce que si le projet voit le jour, est-ce qu'il va vraiment être utilisé? Et donc là, on tombe sur des questions de UX, de design, de est-ce qu'on a mis les utilisateurs dans la boucle, est-ce qu'on a bien pensé le truc pour eux, est-ce que ça va être utilisable et déployé de façon à ce que ça soit pratique. Et ensuite, il y a est-ce que vraiment, même si ça a fait, est-ce que ça a un impact vraiment sur le monde? Donc il y a plusieurs étapes sur lesquelles, sur chaque étape, on va justement prévoir la chose, essayer de cadrer. Et on a tout un framework maintenant qu'on a mis en place au fur et à mesure des années, déjà pour commencer à s'assurer que le truc voit le jour, et réfléchir dès le début sur comment on sera content, comment on saura dire s'il y a de l'impact. Je vais donner quelques exemples, mais par exemple, pour se dire que le projet va voir le jour, on sait qu'il va falloir tant de temps du côté ONG avec qui on travaille pour pouvoir le faire, il va falloir telle compétence, il va falloir faire attention au fait que les données soient déjà disponibles, que genre toutes les pratiques ne sont pas genre faciles à faire pour les bénévoles, et que genre est-ce qu'il y a besoin de formation avant, est-ce qu'il y a besoin d'une infrastructure et de logiciels pour pouvoir le faire bien, est-ce qu'il y a besoin d'un certain niveau d'expérience ou des compétences particulières. Donc on a toute une réflexion projet pour s'assurer que ça marche bien. Et ça peut aller jusqu'à des trucs tout bêtes, mais par exemple, si les bénévoles qui commencent à travailler sur un projet n'ont pas installé l'application Slack, ils n'ont pas les notifications, et du coup, on peut très vite perdre un bénévole qui était hyper engagé parce que on n'a pas eu ça. Et ensuite, il y a toute une réflexion sur comment ce travail-là est valorisé pour les bénévoles de telle sorte à ce qu'en fait, ils aient envie de s'engager, ils savent pourquoi ils le font et ils savent à quoi ils contribuent. Donc déjà, rien que là, c'est toute une réflexion projet pour s'assurer que ça voit le jour. Ensuite, il y a vraiment un sujet autour de ce que je disais, de comment c'est mis dans les mains des gens. Ça, c'est, je pense, une des grandes questions les plus importantes que les gens traitent en général très mal. Ça revient à ce que je disais sur est-ce que c'est fait par des geeks pour des geeks ou est-ce que c'est fait avec et au service de quelqu'un. Il y a un papier génial qui est sorti qui s'appelle AI for Social Good, Critique of Initiatives ou something like that, dans lequel dit le sujet le plus important que personne ne traite en général quand tout le monde dit on va faire de l'IA pour le bien, c'est AI for whom, à qui ça compte, dans quelle main on le fait. Et en général, dès qu'on se pose cette question-là, on va faire des choses beaucoup plus simples, on va en fait complètement changer la manière de travailler parce que en fait, on n'a peut-être pas besoin d'un algorithme hyper compliqué, on a peut-être juste besoin d'un peu de données, un site très facilement fait, et ensuite, et ça suffit déjà, par exemple. Et donc, on aime bien se dire, par exemple, parfois qu'avec pas mal d'associations sur lesquelles on a travaillé, on a parfois juste besoin d'un chiffre qui en fait peut complètement changer la donne. Par exemple, l'écologie, c'est 2% dans les médias. Ou les bateaux de pêche, j'en parlais tout à l'heure, en fait 98% des bateaux de pêche pêchent quand même dans les aires marines protégées et c'est censé être interdit. Mmh. Et donc parfois on a juste besoin d'un chiffre sur lequel ça suffit, et ça c'est seulement en faisant avec les utilisateurs, avec les gens qui sont sur le terrain et qui savent comment déjà déployer cet impact-là, que en fait on s'assure qu'on fait les choses bien. Et ensuite après il y a l'impact en tant que tel. En fonction des projets, quelque chose, parmi les projets qu'on a vus qui ont eu vraiment quelque chose de mesurable d'une certaine manière, pour nous on le mesure parfois au niveau législatif. Par exemple, on sait qu'avec Quota Climat, grâce aux travaux qu'on a fait, ça a pu donner lieu à une proposition de loi sur la régulation des médias, la création d'un observatoire qui permettra de mesurer ça. Et ça, on le sait, on le voit, et ça va changer genre factuellement, quoi. Pareil avec Bloom, je reprends mon exemple des bateaux de pêche, on sait que grâce au fait qu'on a pu commencer à collecter de la donnée sur les bateaux, ça a permis de créer une forme de jurisprudence au niveau européen dans laquelle la donnée GPS des bateaux devient un argument juridique, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et donc ça ne permettait pas de se dire si je sais qu'un bateau est en infraction, en fait, tu ne pouvais pas spécialement porter plainte, alors que maintenant on peut le faire. Donc ça, c'est un premier point, c'est le côté législatif où là, pour le coup, on sait qu'on a un impact. Ensuite, il y a parfois une question de déploiement en tant que tel, sur lequel c'est une forme de proxy d'impact. Mais par exemple, on a bénéficié, nous, on a créé en fait au tout début la plateforme d'Auton qui a permis de fermer en fait énormément de gens à la transition écologique. Donc ça venait d'une saison Data for Good, saison 6. Et en fait, il y a eu, je crois, 100 000 personnes qui ont été formées depuis. Et donc, bien sûr, en fait, ils ont fait un travail énorme depuis sans l'aide de Data for Good, mais en pratique, on sait que nous, on a permis de rendre ça possible et donc de former plusieurs centaines de milliers de personnes à ce sujet-là. Un autre exemple, on a aussi l'idée de l'éco-score, qui est donc l'évolution du Nutri-score, est venue d'une saison Data for Good, de la saison 5, a été développée pendant plusieurs saisons avec un travail incroyable de l'ONG Open Food Facts qui travaillait sur le sujet et avec l'aide de beaucoup de bénévoles Data for Good qui maintenant fait que des millions de produits dans l'Union européenne ont un label EcoScore qui d'ailleurs est imprimé sur les étiquettes qu'on va retrouver maintenant même presque en magasin, quoi. Et donc ça, on sait, alors là c'est même l'exemple extrême où il y a eu même des études scientifiques qui ont montré que ça a permis d'améliorer l'impact environnemental de millions de produits parce que par pression l'industrie agroalimentaire va changer aussi ses pratiques. Et donc on a toutes ces manières-là et en fait maintenant on le voit vraiment au cas par cas et c'est devenu une obsession à chaque étape de sélection, création des projets jusqu'au bout. Peut-être que je finirai par les Boom Carbon, qui est peut-être en termes d'impact, on va dire notre plus gros projet qu'on ait fait, sur lequel le but c'était de se dire, on voyait que les ONG et pas mal aussi d'organisations scientifiques voulaient dire que c'était important de comprendre que la partie offre sur les énergies fossiles était hyper importante, parce qu'il faut en gros plus sortir d'énergie fossile du sol si on veut respecter les accords climatiques de l'accord de Paris. Et en pratique, il y en a encore plein. qui est notamment un des méga projets d'énergie fossile qui font plus d'1 milliard de tonnes de CO2, qui sont en gros des énormes mines de charbon, des gros gisements d'énergie fossile et de pétrole et de gaz. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on on a relié tous ces projets-là, en partant du travaux de scientifiques avec qui on a collaboré, on les a reliés à toutes les entreprises qu'il y avait derrière et à toutes les banques qui financent ces entreprises. Ça fait comme un réseau un peu d'acteurs qui sont impliqués et responsables de ces sujets-là. Et ce truc-là, je le disais au début, a été repris par un consortium de journalistes d'investigation. Ça a permis de faire une commission d'enquête au Sénat en France. C'est devenu le mot bombe carbone est devenu mot de l'année en Belgique. On était hyper fiers. Je sais pas à quoi ça sert en termes d'impact. Mais en fait, on voit que genre, le truc a parlé. Et ça a été repris par... je crois qu'on a eu plusieurs millions de vues, d'articles, etc., qui ont fait rentrer en fait, ce terme-là aussi dans le débat public. Donc c'est aussi une autre forme d'impact qui en fait, a pris d'autres formes à chaque fois. Quoi. Parfois, c'est, je donne peut-être un dernier exemple, parce qu'en fait, ça montre vraiment la spécificité. Il y a une ONG qui s'est créée dans Data for Good, à la base d'une idée d'un citoyen qui s'est dit « Moi, j'aimerais faire ça, je fais de l'analyse d'images professionnellement, je détecte des trucs dans des assiettes. En pratique, j'aimerais appliquer ça aux feux de forêt. » Et donc, qui a travaillé sur le fait de est-ce que je peux détecter des feux de forêt avec du machine learning en mettant des petits algorithmes embarqués dans des caméras. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que oui, on pouvait le faire, et en particulier sur les départs de feux précoces, au moment où il y a juste de la fumée, et que c'est encore le moment d'intervenir et que ce soit pas trop tard. Et en fait, en pratique, 4 ans plus tard, c'est devenu une ONG qui est maintenant en production dans plusieurs forêts en France, au Chili, et qui a déjà en fait sauvé je sais plus combien d'hectares, je veux pas dire de bêtises, mais en fait, quand on prévient les pompiers vachement en avance, en fait, on arrive à sauvegarder je sais plus combien d'hectares de forêt, et c'est déjà genre énorme comme impact. Donc c'est hyper varié, et c'est très dur de savoir quoi faire, mais je pense que vraiment la méthodologie, c'est d'avoir à la fois un cadre assez précis sur la sélection des projets en se posant la question de la finalité et de l'impact dès le début, et ensuite, c'est une question beaucoup de cas par cas.
Mais déjà, c'est absolument dingue et hyper passionnant. Enfin, du coup, j'ai hâte d'en savoir plus, on va creuser. Mais avant, j'aimerais juste du coup parler un peu de toi, Anastasia, parce que du coup, tu as été bénévole à Data for Good. Si tu veux un peu parler de ton expérience, pareil, comment tu as connu l'asso et comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi?
Oui, alors j'ai participé à 2 saisons de Data for Good depuis 4 ans maintenant. J'ai découvert cet asso tout d'abord parce que je venais de me reconvertir en data scientist et je cherchais un projet qui a du sens, sur lequel je pourrais m'impliquer et développer mes compétences techniques dans un premier temps. Et donc j'ai participé à 2 projets, un projet sur la détection des fake news qui s'appelle Validalab, et un autre projet pour développer un moteur de recherche dans le cadre du biomimétisme qui s'appelle Cibios. Et donc, outre le fait que j'ai pu rencontrer des gens vraiment géniaux et passionnés, et également développer des compétences diverses et variées, je me suis rendu compte que c'est vraiment super important de pouvoir contribuer en tant que personne à des projets auxquels on croit et qui ont du sens socialement. Et c'est pas quelque chose qui est toujours très facile dans le monde du travail. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qui permet finalement aussi personnellement pour certaines personnes de s'impliquer et de redonner du sens à leur travail. Et donc la notion de l'impact dont tu parlais tout à l'heure Théo, c'est une notion qui s'est développée au fur et à mesure dans l'asso. Je l'ai remarqué, c'était quelque chose de très fort dans cette nouvelle saison, la saison 12. Vous avez vraiment mis l'accent là-dessus. Et je pense que, outre le fait que c'est important pour l'association, c'est aussi quelque chose qui donne vraiment de la valeur au travail des bénévoles et qui leur permet d'être encore plus impliqués, de créer une feedback loop qui rapporte de plus en plus en termes humains, sociétal, etc. Et donc, sur cette notion d'impact, est-ce que tu as d'autres projets dont tu voudrais parler plus en détail, ou est-ce que, par exemple, au cours de cette saison 12, est-ce qu'il y a eu des projets qui sont démarqués, et aussi comment est-ce que vous comptez mettre en œuvre tout ce que vous avez appris pour les prochaines saisons de l'année prochaine?
Avec plaisir et merci pour le retour. C'est effectivement, je pense, quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure à C'est vraiment cette théorie du changement, quoi. C'est se dire, en fait, si on se lève demain matin et qu'on veut que nos projets aient un impact sur le monde, comment on fait, quoi? Et qu'est-ce qu'on a appris de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Et je pense que justement, un exemple d'échec, d'une certaine manière, je vais le dire, pour réappuyer ces points-là, on avait fait une saison, je crois saison 6, un projet qui était super, qui s'appelait Microphone, dont le but était d'analyser le chant des oiseaux pour les compter et détecter les espèces d'oiseaux. Et sur le principe, c'était une super idée, c'est toujours une super idée, mais en pratique, dans la réflexion de, en fait, pourquoi on le fait, dans quelle main on le donne, qu'est-ce que ça a changé, on l'avait pas fait, on l'avait vraiment pris comme un défi technologique, faisons ça et puis on va voir ce qui se passe. Et du coup, on a eu un algorithme super, mais qui attend maintenant que quelqu'un l'utilise, sur lequel on n'a pas pensé à ça et on n'a pas tout de suite fait la réflexion de, en fait, il faut peut-être le mettre avec la ligue de protection des oiseaux, ça permettra d'avoir une meilleure couverture de ce qu'on comprend sur l'évolution de la vie faune. Enfin, et donc au final, ça c'est typiquement le genre d'idée où quand on faisait le bilan, on s'est dit, bah non, en fait, faut penser à ça dès le début. Et typiquement, dans la saison 12, franchement, moi j'adore tous les projets qui sont sortis, de toute façon ils sont tous trop bien, même si ça marche pas toujours, mais ceux qui m'ont le plus marqué, il y a EU Tax Observatory, qui est un observatoire de l'évasion fiscale de Gabriel Zucman, qui est un économiste qui est très renommé en Europe là-dessus, qui a fait donc il y avait des notamment une chercheuse qui travaillait sur le sujet depuis longtemps, sur le sujet du CBCR, le Country by Country Reporting. C'est une obligation réglementaire qui est en train d'arriver, dans laquelle les entreprises sont censées reporter leurs revenus par pays, ce qui permet de comprendre beaucoup mieux, en gros, les mouvements fiscaux et d'optimisation et d'évasion. C'est une obligation qui va arriver et c'est, en gros, ce qu'on a pu montrer pendant la saison, c'est que 2% des multinationales le font pour l'instant. Et on a réfléchi à comment on le fait pour le mettre dans un outil pour qu'il soit accessible par les chercheurs, les économistes et les politiques pour pouvoir justement prendre action sur le sujet. Et ça, typiquement, enfin, ça, on l'a réussi à faire ça, à le sortir au moment des élections européennes, à avoir toute une plateforme, à envoyer à tous les médias. Et donc ça, c'est des choses qu'on faisait au final assez peu avant. Comment on fait pour se coordonner aussi à une temporalité, que ce qu'était par exemple les élections européennes, avec directement les observatoires, avec les scientifiques qui pourraient s'en servir, avec les utilisateurs. Ça a hyper bien marché. Et le truc maintenant, il va être très utile encore pour la postérité, parce que ça peut donner une première base sur ce sujet-là. Donc celui-là, j'adore. Et ce que je trouvais encore plus génial dans ce projet, c'est que au final, derrière, à la fin, le résultat, c'était il y a un rapport de, je sais plus combien, 40 pages en PDF. Il y a un site internet très simple où on peut aller voir les résultats par entreprise, etc. Et technologiquement, derrière, en fait, ça a été hyper compliqué parce que analyser des PDF avec des pays complètement différents dans des PDF de plein de formats, ça a effectivement nécessité d'utiliser des technologies assez modernes d'IA génératives qui vont analyser des PDF pour pouvoir essayer de renormaliser ça. Et donc au final, technologiquement, le truc était très dur, mais à la fin, genre, la technologie s'est complètement effacée derrière la finalité qui était de montrer ce problème-là dans l'espace public. Assez fan de celui-là. Dans les autres qui m'ont assez marqué, on a sorti un outil qui s'appelle Ecologit, qui est le premier outil au monde permettant de mesurer l'impact carbone de justement de l'IA générative. Et quand on fait appel à des services, déjà que c'est pas très transparent totalement l'impact environnemental de l'IA, on avait déjà développé un outil qui s'appelait Code Carbone, qui permet de mesurer l'empreinte carbone du code en tant que tel, quand on est propriétaire de son code et que c'est nous-mêmes qui le faisons tourner. Et on a fait l'étape d'après, qui était de le mettre quand le code tourne chez quelqu'un d'autre. Et donc typiquement, quand on fait appel aux services d'OpenAI comme ChatGPT, en final, le code ne tourne pas sur notre ordinateur, mais sur les serveurs de cette entreprise-là. Et donc il faut pouvoir estimer à partir des données qu'on a à notre disposition pour pouvoir avoir une idée de qu'est-ce que ça consomme. Et donc ça, on a sorti cet outil-là, qui est maintenant gratuit et open source. D'ailleurs, au passage, tout est open source dans l'association. Pour que en fait, le monde s'en saisisse. Et donc on est hyper fiers d'avoir sorti ça. Et maintenant, tout le jeu, et c'est là où ça devient pas facile, c'est de faire en sorte qu'on a un truc super, il faut que maintenant les gens l'utilisent. Et donc on a tout un enjeu après cette saison, et qui est justement nous, dans notre travail dans l'association, de se dire, maintenant que ça c'est là, faisons tout ce qu'on peut faire pour trouver des manières de le déployer et que ça se devienne un standard et qu'il fasse vraiment changer les choses. Après, je vais peut-être en donner un troisième. Un peu différent, et celui-là il nous a beaucoup plu aussi parce que ça allait vraiment bien dans notre philosophie. on a travaillé avec une association formidable qui s'appelle Utopia 56 sur avoir une forme de cartographie des campements de réfugiés parisiens et de personnes en situation très précaire, pour lesquels, en fait, c'est assez dur. Il y a globalement des gens dorment dans la rue. Ils se font aider par d'autres associations qui font des maraudes. Et donc, il y a pas mal d'associations qui agissent pour que ça soit les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, pour pouvoir, genre, Action contre la faim, pour pouvoir aider ces personnes-là. Et en pratique, c'est très difficile de venir les aider de la façon la plus optimale. Parce qu'en fait, c'est des associations qui ne se parlent pas forcément, qui n'ont peut-être pas idée de où est-ce qu'il faut qu'elles concentrent leurs efforts. Et on a créé une plateforme très simple permettant de coaliser les efforts de toutes ces associations-là, de récupérer de la donnée pour pouvoir comprendre en fait où est-ce qu'elles devaient agir, de quelle manière, comment elles pouvaient se répartir les tâches et réussir un peu à les coordonner entre elles. Et ça, c'est dingue parce qu'au final, à la fin, l'outil était assez simple. Tout a été fait en no-code, donc c'était très facile, il ne nécessitait pas tant de développeurs. Par contre, il y avait un vrai travail de comment on fait pour penser d'un point de vue design, comment on travaille directement pour réfléchir à un système permettant en fait, d'équiper des assos avec un outil. Donc assez fan de celui-là, qui était aussi un peu différent par rapport à d'autres. Et après, il y en a plein d'autres. Là, il y a des choses sur la seconde main qui vont sortir, qui vont faire un gros buzz, parce que il y a une petite aberration dans le monde de la seconde main. Et après, il y en a encore plein d'autres, mais je pourrais en parler plus tard.
Merci pour tous ces exemples super intéressants. Ils montrent que de plus en plus, dans le contexte actuel un peu angoissant du changement climatique, du développement de l'IA et notamment de l'IA générative, les associations telles que Data for Good deviennent de plus en plus pertinentes. Comment tu vois l'évolution de Data for Good dans ce contexte actuel des choses?
C'est sûr qu'on aura encore pas mal besoin de nous, et c'est pour ça que d'ailleurs l'association est en ce moment, elle explose pas mal, parce qu'on a fait des choses qui ont marché, on nous recontacte, on est maintenant hyper repéré pour venir aider d'autres ONG, et donc on a des milliers d'idées de projets qui en fait nous semblent très très importants à mettre en place. Et on a hâte de les faire là pendant les mois à venir, la saison 13, 14, etc. On a pas mal d'actions aussi, où on sait qu'on va sortir des choses nous-mêmes, on va faire à nouveau produire plus d'études sur l'IA typiquement. Et globalement, moi, ce que je retiens d'un point de vue un peu presque philosophique, c'est que du côté de l'intelligence artificielle, c'est en train de devenir la folie, à juste titre ou pas. En fait, c'est toujours est-il que il y a tellement d'argent qui est mis que de toute façon c'est en train de transformer la société. Ce que nous on voit comme le risque le plus important, c'est cette forme de concentration des pouvoirs dans les mains de quelques acteurs économiques qui en fait imposent et façonnent l'IA dans leur vision de ce que ça doit être. Et ça, moi, ça m'effraie parfois complètement de voir un Sam Altman qui dit je pense que en fait il va y avoir un chômage de masse à terme, que tout le monde devrait avoir a universal basic slash of compute. Donc un bout de ChatGPT pour, en gros, essayer de travailler avec ça. Et c'est genre la vision de l'ultralibéralisme poussé à l'extrême, dans laquelle, en fait, si jamais tu sais te servir de ChatGPT, tu pourras avoir accès à ça. Et donc maintenant, ils donnent l'IA au bénéfice de l'humanité, gratuitement, mais en fait, en pratique, il y a zéro réflexion sur la finalité. On se dit qu'on va créer des agents capables, permettant de prendre des actions économiques. J'aime beaucoup j'aime beaucoup réfléchir à quand Mustapha Souleyman, qui est un des créateurs de DeepMind et aussi maintenant le chef de l'IA chez Microsoft, qui dit moi, ce qui m'intéresse, c'est le test de Turing du 21e siècle, dans lequel on va donner 1000 euros à une IA, un système d'IA, d'agent capable de prendre des actions. Et quand est-ce qu'on va réussir à faire que ce système-là, c'est créer une entreprise de toutes pièces qui va gagner 1 million d'euros par an? Ça, c'est la direction de recherche et d'ingénierie de ces géants du numérique. C'est comment on arrive à fabriquer des agents capables permettant de en fait créer de la valeur économique. Et en gros, ça fait qu'il y a très peu de réflexion sur, et je parle pas de risque existentiel, ça c'est même pas un sujet, sur en fait quels vont être les impacts sociétaux à long terme, quels vont être les impacts environnementaux, qu'est-ce que ça dit comme question sur la redistribution de la valeur, sur le temps qu'on a. En fait, il y a plein de choses super qu'on peut faire avec, mais quand c'est façonné pas par les citoyens, pas pour l'intérêt général, en fait, ça pose vraiment des questions fondamentales. Et c'est pas du tout quelque chose qui est définitif. Et c'est ça qui est genre à la fois hyper enthousiasmant et excitant, et en même temps qui nous motive aussi au quotidien, c'est qu'on se doit, en tant qu'acteur ONG et en même temps qu'en tant que citoyen, que de essayer de trouver une manière de pousser notre voix pour façonner aussi l'IA et le développement technologique avec nos valeurs et avec cette prise en compte de l'intérêt général. Et donc ça veut dire plein de choses, ça veut dire justement déjà montrer que c'est possible, qu'en fait on n'a pas spécialement besoin de faire des algorithmes hyper compliqués, mais par contre que ça peut être très très utile pour des gens qui sont sur le terrain et qui peuvent s'en servir, que en fait il y a plein de choses dont on n'a pas besoin et que c'est pas grave d'avoir de l'IA partout et que en fait il faut pouvoir le dire quelque part. En tout cas, il faut qu'il y ait qu'on façonne aussi ça pour l'intérêt général. Et c'est ça, je pense, aussi qui nous anime. Et c'est ce qui fait que là, en ce moment, on se pose vraiment des questions sur une posture qu'on avait avant, au début de l'association, qui était plutôt passive, dans laquelle on disait aux associations, venez nous voir, on va vous aider. Et maintenant, on essaye d'être beaucoup plus actif, dans lequel on sait qu'on veut faire des choses, on crée nous-mêmes nos propres projets, on donne la voix à nos bénévoles comme écho d'une voix citoyenne sur le sujet. Et on aime bien, là on commence à réfléchir au fait de dire qu'on est un peu une forme de piraterie de l'intelligence artificielle sur laquelle on veut genre libérer un peu la parole citoyenne et faire émerger une forme de challenge des forces établies, quoi. Et ça c'est hyper important et c'est hyper enthousiasmant parce qu'on se dit, en fait on est tous embarqués dans ce bateau hyper joyeux de piraterie de la tech sur laquelle on va essayer de faire en sorte que en fait on se batte pour les bonnes causes et que tout le monde ait accès à ces technologies là dans un espace qui est important, quoi.
Et de manière générale, tu trouves que c'est important pour les profils tech et les profils ingénieurs de s'impliquer dans ce type d'initiative? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter d'un point de vue personnel mais aussi professionnel? Et sachant que tous n'ont pas forcément la possibilité de travailler pour une cause sociétale importante, est-ce que tu penses que c'est important que les entreprises s'impliquent aussi dans ce genre d'initiatives, notamment dans le mécénat compétences bénévolat?
Ouais, mais ça fait donc pour les deux questions, pour le fait de le faire. Enfin, il y a aucun doute, moi, ça a changé ma vie. Maintenant, c'est c'est toute ma vie et genre j'ai jamais été aussi heureux parce que je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Et c'est incroyable comme sentiment. Quand je me rappelle avant, quand je faisais que de la data et de l'IA, et qu'on me demandait genre la question un peu à la con de avec qui tu rêverais d'aller dîner, vivant ou mort. J'étais là, aucune idée en fait. J'ai pas vraiment de passion pour quelqu'un qui m'inspire au point de me dire je rêve absolument de dîner avec cette personne. Et depuis que je me suis engagé sur ces causes-là, que je suis re-rentré dans l'assaut, que j'ai rencontré toutes ces ONG, j'ai une liste à rallonge de gens incroyables avec qui j'aimerais juste repasser encore une heure de mon temps pour leur poser des questions. Et en général, c'est des gens, c'est pas du tout des stars ou je ne sais quoi, c'est juste des gens qui se battent localement pour des choses. C'est en général, c'est beaucoup de femmes, en général assez jeunes, et qui genre juste sont incroyables. Et donc rien que pour ça, en fait c'est fou de voir que quand on a quelque chose qui chevillé au corps, on voit pourquoi on le fait. En fait on rencontre juste des gens incroyables qui nous donnent envie de se lever le matin. Et donc ça devrait déjà être rien que la seule raison. Et après il y a plein d'autres avantages, ça permet de développer ses compétences, ça permet, parfois certaines personnes sont très contentes que ça leur permette de développer un peu un portfolio, permettant aussi de trouver un emploi qui peut-être justement aurait du sens. Donc on a plein de gens en reconversion qui se servent de Data for Good comme un tremplin, pour justement avoir aussi de l'expérience pour travailler dans ces domaines-là. Et c'est super parce que en fait c'est aussi bien de le faire en bénévole, mais c'est encore mieux si on arrive à le faire aussi dans son travail. Et donc ça permet aussi de faire ça. Donc il y a plein de raisons d'engagement et c'est absolument génial. Et après, est-ce que les entreprises doivent faciliter ça? Nous, d'une certaine manière, on le fait pas parce que on a vu la valeur à avoir aussi quelque chose qui soit complètement citoyen. Dans lequel on vient pour soi, on vient pas pour son entreprise. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en fait, le temps de travail prend tellement de temps qu'il faut trouver des manières pour permettre aux gens de s'engager. Donc, est-ce que c'est libérer du temps en mécénat de compétences ou pas en mécénat de compétences, de mettre tout le monde à la semaine de 4 jours pour que ça incite les gens à faire plus de temps associatif? Est-ce que c'est du temps associatif dans une association avec les mêmes compétences, donc typiquement tech? ou c'est pour en fait s'engager localement pour son association à côté de chez toi. Tout ce que peuvent faire les entreprises pour faciliter ça sera le bienvenu, parce qu'effectivement on a besoin de ce temps-là pour se dédier à ces causes, et ensuite la manière de le faire et où le faire, bah, ça va dépendre de tout à chacun, en fonction de si on a envie de mettre ses compétences à utilisation ou de s'engager d'autres manières, et il y a plein de choses à faire.
Et maintenant, avec tout ce recul que vous avez par rapport à toutes les saisons précédentes, quels sont vraiment les next steps? Quelles sont les améliorations que vous voulez apporter à la prochaine saison? Qu'est-ce que vous avez appris à la saison 12, par exemple?
Bah déjà, on est dans une phase assez particulière pour nous, qui est qu'on a vraiment envie de passer à l'échelle et d'aller encore plus fort. Et donc là, un des gros changements qu'on est en train de se dire, c'est que il y a plein de choses qui, malgré tout, demandent de l'argent à un moment. Et donc, on est en train d'essayer de structurer l'asso pour la première fois recevoir des financements, pour pouvoir avoir des salariés dans l'association, qui du coup restera de toute façon toujours à but non lucratif, ça y a zéro doute, mais que par contre, pour pérenniser des projets, pour cadrer des projets, il y a plein de choses, pour gérer une communauté, pour faire la communication, parce que comme on a globalement beaucoup de geeks, en fait on sait un peu communiquer, mais en fait pas trop, et du coup justement comme tu le disais auparavant, en fait c'est à la fois hyper important pour faire savoir ce qui a été fait, par exemple pour déployer un projet qui soit vraiment, qui ait un impact, ou rien que pour valoriser le travail incroyable des 6000 bénévoles qui sont dans l'association. Et donc on a plein de choses comme ça où on se dit que pour pouvoir passer à l'échelle, il va falloir qu'on commence à avoir une structure qui ne soit pas que bénévole. Et donc là, c'est assez drôle, mais on a créé pour la première fois notre compte en banque après 10 ans d'association, pour aussi genre pouvoir tout simplement faire des paiements. On a des projets qui ont nécessité aussi des achats de données. On a aussi des gens qui aimeraient s'engager, ou des projets qui nécessitent d'avoir par exemple un freelance sur un temps court. Donc on commence à avoir des freelances sur des projets, sur des bouts de projets, sur des phases de projets qui sont en fait hyper importants à voir, parce que justement si on veut faire que l'intérêt général soit au cœur de ce que les gens font, bah c'est aussi notre rôle que de proposer de rémunérer certains bénévoles qui seraient en freelance pour pouvoir faire ça, justement pour que ça soit pas que un side project qu'on fait comme ça pour s'amuser et se donner bonne conscience. Ça doit quelque part rentrer dans le moment de travail, et ça passe aussi par développer toute cette partie-là. Donc c'est un énorme changement pour nous qui en fait va permettre d'aller normalement beaucoup plus fort et d'avoir d'autres types de projets sur lesquels on pourra avoir justement ces freelances-là, par exemple. Donc ça déjà, ça c'est un premier énorme changement. Concrètement, ensuite, il y a sur la saison 13, entre la saison 12 et la saison 13, on a déjà, je crois, 20 associations ou 25 associations qui nous ont proposé des projets. On en a genre encore 10 dans les bacs qu'on sait qu'on a envie de faire. On a des choses sur l'égalité homme-femme dans le cinéma qu'on a envie de faire depuis longtemps. On a un projet incroyable de fact-checking qu'on devrait faire avec un consortium européen, un truc monstrueux sur la partie environnementale. On a encore plein de projets avec les ONG Bloom sur lesquels on a envie de relancer des choses. Donc on a genre déjà rien que là 30-40 possibilités, idées de choses qu'on a envie de faire. Et en fait, c'est ce qui est hyper intriguant, c'est que c'est aussi très ouvert. Donc au passage, si les auditeurs et auditrices ont des idées parfois qui émergent en tant que citoyens ou qui sont membres d'une association, on peut toujours proposer des projets, et ça permet de aussi de les déployer, quoi. Donc on a pas mal d'ambitions là sur la suite qui viennent autour d'une forme de structuration de l'asso pour pouvoir aller beaucoup plus fort. Très concrètement, là on arrive à faire à peu près 10 projets par an. En fait, on peut, ce qui est déjà genre incroyable, et en fait on veut faire mieux, beaucoup mieux ces 10 projets, et arriver à en faire au moins deux fois plus, parce qu'on a, on voit qu'on a déjà genre beaucoup plus de demandes qu'on n'arrive même pas à combler encore. Et donc ça, ouais, ça présage du bon, et de toute façon ça se voit, on a fait plus de 2000 bénévoles depuis un an, je crois, un truc comme ça, donc c'est que les gens ont envie de faire des choses, quoi.
Ah oui, vous allez avoir de plus en plus de projets. Et donc, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui découvrent Data for Good et qui voudraient s'impliquer, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Avec quel mindset arriver et comment participer de façon la plus efficace possible à Data for Good?
Déjà, c'est assez simple parce que c'est ouvert à toutes et tous. Donc, il suffit d'aller sur dataforgood.fr et cliquer rejoindre la communauté et on arrive sur un Slack sur lequel il y a ces fameuses 6000 personnes. Donc, c'est complètement ouvert. Le problème de ça, c'est que c'est aussi, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire quand on arrive dans une grosse communauté. Et donc là, la recommandation pour s'engager, c'est un, d'être assez proactif. Donc, de pas hésiter à poser des questions, à prendre des initiatives. Parce que beaucoup émerge du fait de prendre des initiatives. C'est ça qui, dans le bénévolat, change tout. C'est quand on a des gens qui se disent, franchement, ce sujet-là, il me plaît, j'y vais, je cadre le truc, je vais coordonner un bout de bénévole. Et donc, un, prendre des initiatives, ça change tout. Et deux, être patient et à l'écoute. Parce que, en fait, potentiellement, ça tombe pas. On a envie de s'engager peut-être sur une période. Et au final, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas genre le truc parfait et c'est pas grave. C'est des causes, de toute façon, il y en a plein et ça va durer genre très longtemps. Donc, il y a des gens qui rentrent dans la communauté et au final, ils surveillent un peu ce qui se passe, ça les nourrit, ils prennent un peu aussi d'énergie de ça. Et au final, ils s'engagent peut-être un an plus tard, deux ans plus tard, ils vont participer à un projet. Et toi, je crois que tu disais, tu as fait un bout de la saison 9, un bout de la saison 11 ou 12. Et donc, au final, entre les deux, tu as peut-être suivi ce qui se passait et c'est super. Donc, être proactif, être patient, et après être hyper bienveillant, parce que ça c'est un point qui parfois qui change tout dans la communauté, c'est qu'il faut qu'on s'y sente bien. Nous, on est hyper fiers d'avoir commencé à mettre plein de règles en place, de choses qu'on ne veut pas voir advenir dans le monde de la tech, donc une beaucoup plus grande place pour typiquement pour les femmes qui sont genre parfois oubliées dans ces réseaux-là, une forme d'inclusivité et de bienveillance sur toute cette organisation bénévole qu'il y a autour de ça, un travail en fait collaboratif avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on verra peut-être jamais, sur lesquels en fait il faut aussi trouver des manières de travailler, et c'est hyper passionnant, mais ouais, je pense que ça résume un peu. Et puis après il y a plein d'autres assos pour faire ça aussi, si jamais genre trouve pas chaussure à son pied, mais normalement il y a de quoi faire.
Merci beaucoup Théo, merci beaucoup Anastasia. C'était vraiment absolument passionnant. Et du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous aurez dans la description tous les liens si jamais ça vous intéresse. On pourra mettre aussi le livre blanc, les documents que tu as cités. Et du coup, vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Et du coup, je vous dis à très bientôt sur les podcasts de Devoteam Revolve. Merci beaucoup.